Bernard Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir encore une fois.
Merci beaucoup.
Mais là, pour une excellente nouvelle.
Une grosse nouvelle,
oui,
quand même.
Oui, quelque chose que vous couviez depuis longtemps, ce livre « Sauver de la planète, une bouchée à la fois », qui est déjà... qui est sorti, quoi, lundi?
Oui, lundi.
Assez récent et déjà un grand, grand succès en librairie. Bravo, Bernard.
Merci, merci beaucoup.
Habituellement, je le disais un petit peu en intro, quand on parle de nutrition, on associe cela davantage à la santé humaine. Dans ce livre-là, vous abordez davantage la santé de la planète, ce qui est déjà plutôt novateur. Est-ce qu'on peut allier les deux, santé humaine, santé de l'environnement?
Non seulement on peut les allier, mais c'est indispensable d'allier la santé des humains à la santé de la planète. Et c'est de ça dont je me suis rendu compte le plus en faisant mes recherches pour le livre. C'est que quand j'étais à l'université, donc pendant mon bac en nutrition, on a beaucoup parlé de l'impact des aliments sur la santé humaine, bien sûr, et la très grande majorité des cours sont là-dessus. Mais jamais on a abordé l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement. Mmh. Et c'est en lisant un essai d'Élise Desauniers qui s'appelle « Je mange avec ma tête » que j'ai vraiment eu le déclic et que là, j'ai commencé à voir que justement, les choix qu'on fait à chaque jour pour manger peuvent avoir un impact sur la biodiversité, sur l'émission de gaz à effet de serre, on gaspille beaucoup d'aliments, etc. Et donc, pour moi, ça a été comme une claque au visage. Je me suis dit, comment est-ce que, comme nutritionniste, on peut se dire des spécialistes de l'alimentation si ce gros pan de l'alimentation n'a jamais été abordé dans nos cours?
Oui. D'entrée de jeu, dans le livre, vous parlez de l'alimentation durable, qui est, à mon sens, quelque chose dont on n'entend pas souvent parler. En quoi l'alimentation qu'on a en ce moment, nous, les êtres humains, n'est pas durable?
En fait, la définition la plus simple de l'alimentation durable, c'est un type d'alimentation où la santé humaine va allier la santé de la planète. Mmh. En ce moment, la raison pour laquelle notre système agroalimentaire n'est pas durable, c'est parce qu'on gaspille beaucoup d'aliments, on dépense plus d'énergie pour produire, transformer et transporter les aliments que ce qu'ils contiennent comme énergie eux-mêmes. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher de l'énergie qui a été emmagasinée pendant des millions d'années, donc sous forme de pétrole. On utilise cette énergie-là puis on va la dépenser très, très, très rapidement. Donc, c'est une énergie qui est non renouvelable. Et donc, sur le long terme, ça ne sera pas durable.
Mm-hmm. Justement, dans ce livre, vous proposez différents trucs, différents conseils pour changer tranquillement notre alimentation, qu'elle devienne plus durable. Plusieurs trucs, ça se retrouve, le manger local, choisir la pêche durable, manger moins de viande, manger bio, moins transformé. Évidemment, on prend une bouchée à la fois aussi, j'imagine. On ne peut pas tout changer.
Mais je pense que c'est un petit peu ça, le but du titre du livre, c'était de montrer qu'il existe des centaines de trucs, à peu près une centaine de trucs dans le livre, et c'est des trucs pour le quotidien, mais même moi, je ne les fais pas tous les jours. C'est certain que je ne les applique pas tous, et le but justement, c'est que les lecteurs puissent en choisir un, deux, trois, voir est-ce que ça s'applique à mon quotidien, est-ce que je suis capable de l'appliquer à ma vie. Si je suis capable, tant mieux, je le fais, mais si c'est trop difficile pour moi, bien, je peux en choisir un autre, et le but, c'est jamais de changer du jour au lendemain, sinon ça ne va pas durer sur le long terme.
Et je pense aussi que pour changer des habitudes, parce que déjà, on l'a souvent répété, l'alimentation, c'est quelque chose d'émotif. C'est lié souvent à notre enfance, au plaisir également. Changer, ça peut être difficile. Et pour changer, moi, je pense qu'il faut comprendre. Quand vous mentionnez ce qu'est la pêche durable, entre autres choses, on l'a déjà fait, nous, ensemble, Bernard, il y a de ça quelques temps. Quand on comprend tous les effets de la pêche, déjà, et qui n'est pas toujours durable, déjà, on peut avoir envie de se tourner vers un changement.
Bien, moi-même, c'est certain que c'est en prenant connaissance de ces différentes conséquences sur l'environnement que j'ai décidé de changer mon comportement. Donc, je me dis qu'il y en aura certainement d'autres qui voudront faire de même. Mais c'est certain que de connaître les conséquences de notre alimentation n'est pas suffisant et c'était la raison pour laquelle je voulais donner le plus de trucs pratiques et concrets pour le quotidien parce que on a beau dire, le meilleur exemple, quand on est nutritionniste, on dit toujours aux gens manger plus de fruits et de légumes. Ouais. Même si les gens savent que c'est bon pour la santé, ça ne veut pas dire qu'ils en mangent plus. C'est pas suffisant, il faut donner des trucs pour qu'on soit capable d'appliquer ça au quotidien.
Bernard Lavallée, manger local au Québec, on va y aller, on va tenter d'aborder à peu près, on sait qu'on ne pourra pas, là, à peu près tous les chapitres, tous les trucs mentionnés. Bon, si l'on commence par le premier volet de votre livre qui est manger local, est-ce que c'est, vraiment possible au Québec avec le climat qu'on a?
Pendant l'été, c'est possible de manger local en très grande partie. Je dirais qu'il n'y a aucune bonne raison de ne pas manger des aliments du Québec quand c'est l'été parce qu'ils sont frais, ils sont nutritifs, ils viennent de près. Donc, pour moi, c'est vraiment gagnant. Évidemment, l'hiver, c'est beaucoup plus difficile. Il reste quelques choix, qu'on parle de choux, de carottes, de navets, de patates, etc. Il y a quand même des choix locaux, mais personne n'a le goût de juste manger des pommes de terre pendant tout l'hiver. Et donc, on peut quand même se tourner vers des aliments qui viennent de loin et c'est correct comme ça. Mais c'est simplement que quand on a la chance de manger des aliments qui viennent de près, bien, pourquoi ne pas prendre cette chance-là?
Et si l'on fait un lien avec le sujet de votre livre, les avantages pour la planète de manger local?
Bien, c'est certain que le fait d'acheter des aliments qui viennent de près, il y a une moins grande émission de gaz à effet de serre qui est liée au transport des aliments. Les aliments, ici au Québec, ont voyagé entre 3500 et 5000 km avant d'arriver dans notre assiette. Oui. Donc, c'est certain que c'est associé à une émission de gaz à effet de serre à cause du transport.
Mm-hmm. Et bien sûr, je ne pense pas que vous l'abordez directement dans le livre, mais il y a un impact économique aussi à consommer local.
C'est certain que si, en ce moment, il y a un tiers seulement des aliments du panier québécois qui provient du Québec. Donc, c'est certain que si on se décide à acheter des aliments qui viennent de près, on va récolter de l'argent. S'il y a une statistique de la MAPAC, si je ne me trompe pas, qui disait que si chaque Québécois décidait de remplacer 20 $ par année, pas par semaine, par année d'achats, donc qui viennent de loin, par des achats qui viennent du Québec, en 5 ans, on récolterait 1 milliard de dollars dans l'économie. Donc, c'est non négligeable pour l'économie du Québec, c'est certain.
Mm-hmm. Et pour l'environnement. Maintenant, vous parlez aussi dans ce livre-là d'agriculture. Bien sûr, ça va de soi. Quand on parle d'alimentation, de nutrition, ça va avec ce que l'on fait pousser. L'agriculture qui est peut-être plus mise de l'avant en ce moment, donc l'agriculture dite conventionnelle, a des impacts sur aussi la planète.
L'agriculture conventionnelle utilise des produits de synthèse comme des herbicides, des pesticides, utilise des engrais de synthèse et on sait maintenant que ces différents produits peuvent avoir un impact sur la biodiversité, sur différentes espèces. Il y a de la pollution dans les cours d'eau, dans les sols et dans l'air. Et donc, on sait que de se tourner vers une alimentation, en fait vers une agriculture qui est biologique, ça améliore la biodiversité et ça diminue ces différents polluants dans l'environnement.
Mm-hmm. Encore là, ça devient un choix et aussi parfois un choix qui est économique, on le sait. On ne peut pas se le cacher, la nourriture dite bio coûte souvent plus cher, malheureusement.
Manger bio, c'est certain que ça coûte plus cher. Pendant l'été, on est capable de trouver des choix qui sont peut-être un petit peu moins dispendieux, mais c'est certain que oui, ça coûte plus cher. C'est un choix à faire. Cependant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut tout se tourner vers le bio à 100 % du jour au lendemain. Par exemple, dans mon livre, j'offre une liste des fruits et des légumes qui contiennent le plus de pesticides. Et donc, si on veut diminuer notre ingestion de pesticides, on peut choisir, par exemple, les 3 premiers fruits ou légumes de cette liste-là et se dire, je vais acheter ces 3-là de façon biologique, les autres, je vais continuer à les acheter de façon conventionnelle. Et déjà, je sais que je fais un pas pour l'environnement, mais je fais un pas pour peut-être ma santé ou du moins pour l'ingestion de pesticides.
Donc, et avec ce tableau-là, ça devient bien plus concret et aisé de faire des choix aussi.
Exactement. C'est plus facile.
Mm-hmm. Vous parlez aussi qu'il pourrait être préférable de diminuer notre consommation de viande. Ça commence tranquillement à faire des petits... Vous parliez d'Élise Desaunier tout à l'heure, qui a publié des livres en ce sens et qui a déjà bougé pas mal de cartes. Mais encore là, souvent, la viande, c'est quelque chose d'un peu émotif. Si on aime en manger, on ne veut pas trop se restreindre à diminuer notre consommation. Encore là, ça peut être polluant, c'est pas de l'agriculture, mais en fait, c'est l'élevage. Oui, mm-hmm. L'élevage de viande.
Bien, pour vous donner une idée, l'élevage des animaux sur la Terre émet autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des moyens de transport. Donc, avion, bateau, camion, auto. C'est la même émission de gaz à effet de serre. Okay. Donc, l'élevage, ça a un impact qui est non négligeable sur le réchauffement climatique.
Mm-hmm.
Et donc, manger moins de viande, c'est certain que ça a un impact qui est profitable à l'environnement, justement parce qu'on diminue cette émission de gaz à effet de serre, mais aussi pour plein d'autres raisons. Et c'est bon aussi pour notre santé. Ça reste qu'il y a une panoplie d'études qui démontrent que les gens qui mangent moins de viande ou pas de viande du tout sont souvent en meilleure santé, ont moins de maladies chroniques comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires que ceux qui en consomment beaucoup.
Mm-hmm.
Donc, c'est un choix sensé de se tourner vers des sources de protéines qui sont végétales, comme les légumineuses, comme le tofu, de les découvrir. Encore une fois, je ne dis pas de devenir végétarien du jour au lendemain, mais d'essayer peut-être un jour par semaine. Il y a le lundi sans viande, ouais, qui est devenu de plus en plus populaire au Québec. Bien, un jour par semaine, j'essaie une recette végétarienne et vous allez découvrir que non seulement c'est bon pour vous, pour votre santé, mais c'est bon au goût aussi. Et les légumineuses, ça peut faire partie de l'alimentation des omnivores, là. C'est pas l'un ou l'autre. On peut en manger.
Votre livre n'en est pas un de livre de recettes, mais vous glissez quand même quelques recettes à l'intérieur. Il y a une soupe de lentilles, justement.
Oui, exactement. Je voulais pas sortir un livre de recettes du tout. Il y en a quelques-unes parce que je pense que c'est impossible de parler d'alimentation sans quand même donner quelques recettes. Mais c'est Julie Aubé, une de mes collègues qui est nutritionniste, qui a développé toutes les recettes du livre.
Oui. Quand on parle d'élevage de viande aussi, je pense qu'on a parlé de gaz à effet de serre, l'effet de serre, mais il y a aussi l'eau, la consommation d'eau, je pense. Là, ça consomme énormément.
Oui, en fait, l'élevage est associé à une grande utilisation d'eau, mais en réalité, bon, je vais vous donner un exemple. Pour avoir un kilo de viande de bœuf, ça demande environ 15 000 litres d'eau, okay, qui a été associée à sa production. Mais la très grande majorité de ces litres d'eau-là n'ont pas été bu par l'animal, ils ont été mangés. Donc, c'est simplement parce qu'on a arrosé les champs pour faire la nourriture et on lui donne de la nourriture. Mais comme le bœuf n'est pas un animal qui est efficace pour absorber l'énergie des aliments, on doit lui donner beaucoup, beaucoup d'aliments pour qu'il finalement produise un petit peu de protéines. Et donc, c'est pour cette raison-là que c'est une production de protéines qui est peu efficace et qui devient polluante à cause vraiment du volume de nourriture qu'on doit leur donner.
Mm-hmm. On parle aussi dans ce livre des produits transformés qui se retrouvent de plus en plus sur nos tablettes, probablement associés à ce rythme de vie qui est hyper effréné. Et pour les familles, ben, ça devient peut-être plus aisé de consommer déjà des produits tout faits. C'est souvent lié à de l'emballage, trop d'emballage finalement, Bernard.
C'est certain que l'emballage de un peu devient des déchets, surtout si c'est pas recyclable ou peu importe, mais également tout le processus de transformation. On ne sait pas nécessairement d'où proviennent les aliments, on ne sait pas comment ils ont été produits. Et donc, de se tourner vers des aliments qui sont le moins transformés possible, pour moi, c'est comme une des premières briques qu'on peut mettre pour se bâtir une alimentation qui est plus durable, donc de recommencer à cuisiner parce qu'à ce moment-là, on se questionne sur les choix qu'on fait, on se questionne sur les aliments qu'on choisit et de se dissocier un petit peu de l'industrie. Et encore une fois, on peut continuer à acheter des aliments transformés, mais d'essayer tranquillement de s'en dissocier, d'acheter des aliments le moins transformés possible, on va savoir ce qu'on met vraiment dans notre assiette.
Et lorsque l'on cuisine, on se pose des questions aussi sur la provenance de nos aliments. Ça peut nous donner envie de faire plus de jardinage. Et vous en parlez aussi, Bernard, en ville, c'est quoi les trucs pour quand même faire un tout petit peu de jardinage?
Moi, j'habitais à Laval dans mon adolescence et j'avais un potager chez mes parents. Je trippe, j'adore faire pousser des plantes. Dans mon petit appart à Montréal, j'ai sur le bord de ma fenêtre, je fais pousser des fines herbes, je fais des germinations et des pousses. Ça prend vraiment pas beaucoup d'espace, donc c'est simplement de prendre, vous allez dans n'importe quel magasin d'aliments naturels ou peu importe, vous pouvez trouver des semences pour faire des germinations dans un germoir. Je fais pousser des champignons aussi à partir du marc de café.
Ah, ouais.
Tout ça, c'est expliqué dans le livre. Donc, comment être capable de faire pousser des pleurotes chez soi. Ça demande vraiment pas beaucoup d'espace. C'est facile à faire. Et pour moi, ce sont des belles expériences qu'on peut faire avec les enfants. Mais même moi, comme adulte, j'adore faire ça. Et c'est toujours fascinant de voir ça pousser, après de le manger et de le cuisiner.
Beaucoup de gratification aussi. Un volet, il reste peu de temps, un volet que je voulais absolument aborder avec vous parce que, en ce sens, je trouve le livre novateur. C'est ces chapitres-là où vous abordez le manger sauvage, oui, mais là aussi cuisiner des parties d'aliments négligés, cuisiner des aliments fatigués, vous donner des recettes aussi par chance. Comment on peut inciter? Déjà, manger du brocoli, c'est pas évident pour les enfants notamment, mais manger du pied de brocoli ou des feuilles de chou fané, c'est encore moins attirant. Comment on peut amener le grand public à avoir envie de consommer ces aliments-là?
Bien, je vous dirais que le livre s'adresse à beaucoup de gens. Donc, il y a des trucs qui peuvent être plus faciles pour certains, des trucs qui peuvent être plus difficiles pour d'autres. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas tout le monde qui peut appliquer tous ces trucs-là nécessairement. Par contre, dans le cas des aliments fatigués, c'est facile de transformer des pieds de brocoli ou bien des tiges de kale en potage. Je donne une recette justement développée par Julie Aubé, encore une fois, qui est super délicieuse, qui est facile et rapide à faire, qui est nutritive. Et en plus, c'est une façon d'économiser beaucoup, ouais. parce qu'on fait plus avec ce qu'on a acheté. On double quasiment. Là, si on jette tout le temps les pieds de brocoli, là, ça fait quasiment le double du poids. Et donc, pour moi, je pense que d'avoir des recettes pour être capable de rendre ça savoureux, c'est un incitatif peut-être.
Et ça évite le gaspillage.
Certainement.
Oui. Mm-hmm. Il y a une recette d'ailleurs de sirop de cœur de pomme.
Mais pour moi, justement, c'est une façon de rendre sexy des cœurs de pomme. Personne n'aurait cru qu'on puisse les manger, mais en les faisant infuser dans de l'eau avec du sucre, on fait un sirop et après on peut faire des cocktails qu'on sert à nos amis. Moi, je les ai servis dans plein de soupers, tout le monde a adoré.
Et c'est des aliments que l'on croit jetables, en fait souvent, qui se retrouvent à la poubelle, mais qui peuvent être réutilisés.
Voilà.
Bien sûr, on n'a pas tout abordé. Il y a aussi tout un chapitre sur comment mieux utiliser son frigo pour une meilleure conservation des aliments. Manger plus sauvage, réapproprier des aliments qu'on ne pense même pas pouvoir consommer. Tout ça, c'est dans votre livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois », Bernard Lavallée. Merci beaucoup d'être passé. Vous êtes aussi le nutritionniste urbain, nutritionnisteurbain.ca. Et je vous souhaite encore du très, très beau succès avec ce livre-là.
Merci beaucoup.
Au plaisir.